Radio Octobre. Écho des développements.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Écho du Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et de développement durable diffusé sur Radio Capi. Comment améliorer les poursuites judiciaires des présumés auteurs des crimes phoniques en RDC? C'est le sujet que nous traitons dans ce numéro d'Écho du Développement qui vous est présenté par Tati Mapoukou avec la collaboration de Martin Ngombo. Jean-Marc Matoua qui coordonne et supervise ce magazine. Polydor Basunga s'occupe de la prise des sons. Nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute de ces nouveaux numéros du magazine Écho du Développement.
Écho du Développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du Développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Merci de votre fidélité à la Radio Capi, la fréquence de la paix. La RDC est l'un des pays du bassin du Congo dont la diversité écologique est l'une des mieux nanties en raison de sa superficie et d'innombrables ressources fauniques, floristiques et halieutiques qui la composent. Pour la protéger, elle s'est dotée d'un cadre légal assez riche et varié qui intègre différentes dispositions de protection de la faune sauvage sous tous les aspects, ainsi que des institutions telles que l'Institut Congolais de Conservation de la Nature, ICCN en sigle, et les corps de protection des parcs nationaux et des aires protégées apparentés, corps PPN en sigle, qui permettent non seulement de prévenir les infractions fauniques, mais aussi de les réprimer en collaboration avec les pouvoirs judiciaires. Malgré l'existence de ces institutions de conservation, de contrôle et de la réglementation du secteur de l'environnement, les braconnages et la pratique des activités illicites dans les aires protégées de la RDC se font généralement en toute impunité. Comment améliorer les poursuites judiciaires des présumés auteurs des crimes phoniques en RDC? Des réponses à cette question, vous les aurez sans doute au cours de ce nouveau numéro des Codes du Développement qui débute avec le témoignage de l'ingénieur forestier Emmanuel Ngouamachi qui évoque dans cette interview les menaces principales qui empêchent le bon déroulement des activités dans les parcs nationaux de Kahuzi-Biega dans la province du Sud Kivu. L'insécurité, l'occupation des couloirs écologiques par la population locale, l'exploitation artisanale des ressources naturelles et les braconnages sont couramment pratiqués dans cette aire protégée. Suivons son témoignage.
Pour OpenKB, il y a 4 menaces prioritaires. D'abord, c'est le problème d'insécurité, la présence des groupes armés, le Mai Mai, ils sont nombreux là. Mais également aussi le problème de l'occupation du couloir écologique. Mais avec la contribution, en fait, les concours des efforts qui ont été déployés tant par l'ICCN et tous les autres partenaires, une solution venait d'être trouvée donc, avant que nous arrivions sur le terrain. Donc le couloir a été libéré. Donc aujourd'hui, il y a déjà une recolonisation de ce couloir-là avec des espèces végétales. Donc il y a la vie qui reprend. Mais également aussi le problème qui a été soulevé, c'est l'exploitation illégale des ressources naturelles, donc des minéraux. Et là, il y a vraiment l'implication des élites, en fait, des leaders locaux, qui encourage ces genres de pratiques. Et une autre menace, c'était le braconnage. Là, le braconnage a été vraiment présenté comme une menace non négligeable, mais également aussi pour clôturer, c'est en fait le niveau social de toutes les communautés riveraines des aires protégées. Ils sont dans un état de pauvreté très avancé, au pénible, entre guillemets. Et c'est ce qui pousse ces gens-là, qui sont dépourvus, de pouvoir se rabattre aux ressources disponibles dans ces aires protégées.
Cette répression faunique ne concerne pas seulement les parcs nationaux de Kahuzi-Biega. De nombreux trésors artisanaux exploitent les minerais dans les parcs nationaux d'Upemba et de Kundelungu, dans la province du Katanga. L'expansion démographique et les braconnages dans ces aires protégées et dans les autres domaines de la chasse de la province du Katanga se portent également bien, selon Gabriel Ntumba, chef de division au secrétariat général du ministère de l'aménagement du territoire.
Les menaces sont nombreuses. Vous savez, le Grand Katanga, c'est une zone minière, ce qui fait que la plupart des parcs nationaux qui y sont occupés par les exploitants miniers. Il y a aussi la croissance démographique autour de ces parcs. Il y a le braconnage, puisque vous connaissez le Pemba, ils ont des espèces qui ont une valeur universelle exceptionnelle. Il y a des éléphants, il y a des zèbres, il y a beaucoup de choses. Et le commerce illicite, par exemple, d'ivoire, et faire qu'il y a un braconnage sur les populations d'éléphants et autres espèces, puisqu'on a besoin de d'autres trophées de chasse pour le commerce illicite, bien entendu.
Vous venez là de suivre deux témoignages sur les activités illicites qui sont pratiquées dans les aires protégées de la RDC. Ce sont d'ailleurs ces activités prohibées qui ont poussé l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en sigle à inscrire les aires protégées de la RDC dans la liste du patrimoine mondial en péril. En RDC, c'est l'ICCN qui a pour mission d'assurer la protection de la faune et de la flore dans les aires protégées, favoriser la recherche et le tourisme dans ces milieux et gérer les stations de capture et de domestication des animaux. Il collabore avec des structures qui permettent non seulement de prévenir les infractions fauniques, mais aussi de les réprimer. En outre, la RDC a adhéré à plusieurs conventions régionales et internationales qui visent la protection et la régulation du trafic et du commerce de la faune sauvage, dont notamment la CITES. D'après le professeur Augustin Ngumbia Mouri, directeur coordonnateur de la convention CITES à l'ICCN, la dite convention est un document qui réglemente la circulation des espèces animales et végétales menacées d'extinction à travers le monde. Nous allons suivre les explications du professeur Augustin Ngumbia Mouri. Nous rappelons qu'il est le directeur et coordonnateur de la convention CITES à l'ICCN.
En fait, la convention CITES elle-même, c'est la convention sur le commerce des espèces. C'est une convention des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la flore et puis la faune, mais sauvage. Alors cette convention organise une protection des espèces selon le niveau des menaces. Les menaces qui posent ici cette dernière. Alors elle a une régulation à travers les permis, donc c'est-à-dire à travers les annexes. Il y a trois annexes. Il y a les espèces qui sont menacées d'extinction, qui ne peuvent pas faire l'objet de commerce, qui sont tellement menacées et sont inscrites à l'annexe 1 de la dite convention-là. Donc il n'y a pas de commerce sur ces espèces-là. Et il y a les espèces qui ne sont pas fortement menacées d'extinction, mais dont les commerces pouvaient les plonger dans cette catégorie, sont inscrites à l'annexe 2 de la dite convention. Et les espèces qui fortement ne sont pas menacés d'extinction, qui sont soit endémiques dans un État, qui demanderaient la solidarité des autres États pour la protéger, sont inscrites à l'annexe 3. Donc il y a les degrés de menaces. Lorsque les menaces sont grandes, l'espèce est inscrite à l'annexe 1. Et là, il n'y a pas de commerce, il y a une rigueur, il y a un contrôle rigoureux sur cette espèce-là. Alors, c'est ça les niveaux de menaces que la CITES accorde. Alors, il y a un long mécanisme également de protection sur la circulation, c'est-à-dire toutes ces espèces-là ne peuvent pas quitter d'un pays A vers un pays B sans qu'il y ait un permis ou certificat qui est délivré par une autorité administrative désignée par un État membre de la dite convention. Et cette autorité est appelée organe de gestion de la dite convention. Ce sont les fonctions que j'exerce.
Avec un tel dispositif légal et institutionnel, toute infraction est censée être portée à la connaissance des autorités compétentes, en l'occurrence judiciaires, pour traitement et décision. Depuis 2015, le gouvernement de la RDC a mis en place les corps des parcs nationaux et des aires protégées apparentés, corps PPN en sigle, qui est une structure étatique ayant pour mission la protection des aires protégées et de lutte contre les crimes dans les secteurs de l'environnement. Nous allons suivre les explications du général Dieudonné Kitenge Amissi, commandant en charge des opérations et des renseignements du corps PPN.
Le corps de parcs nationaux et des aires protégées apparentées, corps PPN en sigle, c'est un corps qui a pour mission la protection des aires protégées et la lutte contre la criminalité environnementale. Donc ce corps a été créé par décret en juin 2015 et il a été opérationnalisé par la nomination de ses animateurs en juillet 2018. Donc le corps a été mis en place par souci de répondre aux multiples menaces qui guettent nos aires protégées. Vous connaissez que l'Institut congolais de la conservation de la nature, jusque-là, travaillait avec les éco-gardes dans la lutte anti-braconnage. Et les braconniers, à l'époque, c'était des petits groupes qui ne dépassaient pas 15 personnes à l'époque. Mais aujourd'hui, dans les aires protégées, nous avons des groupes armés qui sont installés.
On parle de plus de 80% des groupes négatifs.
Donc les forces négatives sont plus dans les aires protégées. Et aujourd'hui, il faut, par rapport à la nature et même au milieu des aires protégées, il faut une force spécialisée pour la lutte contre ces groupes armés et il faut des techniques beaucoup plus spécialisées. Et c'est ce que le corps PPN veut apporter comme réponse à la situation sécuritaire des aires protégées.
Et sur terrain, comment est-ce que vous travaillez concrètement? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur terrain? Comment est-ce que vous travaillez?
Ah, donc nous sommes dans la continuité. Les éco-gardes ont existé. Notre mission avec la nomination du commandement du corps PPN, c'est les organiser, les former afin de répondre aux menaces, mais aussi avec la population locale. Vous savez que nous conservons pour les biens de la conservation, pour les biens des communautés. Donc c'est au profit des communautés que nous le faisons. Donc aussi, en sécurisant les aires protégées, nous sécurisons toute la population environnante, parce que c'est ça aussi notre mission.
Et est-ce que sur terrain, la population collabore facilement, adhère facilement aux actions que vous menez sur terrain?
Oui, par les programmes des COCOCO, qui est la conservation communautaire. Donc ce sont les populations qui nous amènent beaucoup plus d'informations et qui nous aident, nous, à aller faire la lutte anti-braconnage.
Malheureusement, il est constaté sur terrain, en dépit du taux élevé de la criminalité faunique, que plusieurs dossiers ne sont pas portés devant les cours et tribunaux par ignorance des lois réglementant les secteurs de l'environnement et des conservations de la nature. Le professeur Augustin Ngoumbi Amouri, directeur coordonnateur de la Convention CITES à l'ICCN, revient sur quelques espèces animales qui figurent dans les annexes de la Convention CITES.
Au niveau de la RDC, nous avons par exemple les éléphants. Les éléphants sont les espèces qui sont totalement protégées, intégralement protégées, pour lesquelles on ne peut ni consommer la viande, ni les vendre sur le marché, et même les produits et sous-produits de l'éléphant ne peuvent pas faire l'objet de ventes comme l'ivoire. L'ivoire et autres spécimens, la queue, on ne peut pas les vendre. Là, nous avons l'éléphant qui se trouve à l'annexe 1, et nous avons également d'autres espèces. Nous avons par exemple les léopards. Le léopard, c'est une espèce qui est à l'annexe 1 de la CITES, que nous avons chez nous à l'RDC. Nous avons également les lamantins. Les lamantins que nous trouvons au niveau des parcs marins de mangroves, vers l'embouchure du fleuve, qui sont totalement protégés, qu'on ne peut pas consommer. Nous avons la tortue marine. Donc nous avons autant d'espèces que nous avons au niveau de la RDC, qui sont inscrites à l'annexe 1 de la convention. Ça, c'est concernant la faune.
Est-ce qu'il y a des efforts qui sont menés à votre niveau pour vulgariser cette convention? Par exemple, si, lorsqu'on parle des espèces qui sont protégées, telles que le stipule à l'annexe 1, qui sont les efforts qui sont menés pour vulgariser cette convention?
Alors, les efforts commencent d'abord par la gestion de la dite convention au niveau du pays. Parce que cette convention a posé problème pendant 3 décennies au niveau de la RDC à cause de la mauvaise gouvernance caractérisé dans la dite convention, et ce qui fait qu'il y avait la RDC a été considérée comme un ventre mou de la dite convention. C'est-à-dire, les animaux quittent la RDC vers l'extérieur, à cette époque, et quittent l'extérieur vers la RDC sans un contrôle. La corruption et tous ces différents problèmes. Et fort de cela, le gouvernement avait décidé, depuis le 31 août 2017, de transférer, de réorganiser à l'interne. Donc, c'est passé d'un service du ministère de l'Environnement à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Je ne peux pas donner les noms des services, mais au moins, il y a eu des problèmes. Alors, à ce niveau-là, il y a eu une organisation administrative pour respecter d'abord des recommandations. Les recommandations pertinentes concernant la bonne gouvernance de la dite convention. Alors, maintenant, au niveau interne, il y a une vulgarisation, mais qui n'est pas suffisante. La vulgarisation, ce sont des affiches, et parfois qu'on trouve ça et là, mais c'est pauvre. C'est pauvre, il n'y a pas assez de vulgarisation parce que vous trouvez sur le marché
faute la viande. Faute de moyens.
Voilà, ou... faute de moyens, vous trouvez la viande des espèces totalement protégées qu'on trouve sur le marché. Donc ça, c'est un sérieux problème. Donc la vulgarisation n'est pas suffisante, mais elle nécessite des moyens. Il y a des ONG, mais autrefois les ONG avaient abandonné cette convention parce qu'elles considéraient qu'il y avait des sérieux problèmes. Il y avait des sérieux problèmes par rapport aux espèces. Donc vous avez vu, par exemple, il y a les mouvements, les perroquets gris, par exemple, ne sortaient plus facilement. Il y a eu lâchage, vous avez suivi l'année passée, il y a eu destruction de l'ivoire par les chefs de l'État, il y a eu autant des écailles des pangolins, parce que même les pangolins sont totalement protégés. Donc il y a eu des efforts pareils, mais c'est minime. Il y a les ONG maintenant qui commencent à nous prêter main forte pour essayer de vulgariser cette convention et la mettre en œuvre. Mais les efforts sont toujours insuffisants.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à la Radio Okapi, la fréquence de la paix. Vous suivez en ce moment le magazine Écho du développement axé sur comment améliorer les poursuites judiciaires des présumés auteurs des crimes phoniques en RDC. Les quelques rares affaires soumises aux cours des tribunaux ne sont pas toujours sanctionnées par un jugement de condamnation. Pour la toute première fois, deux cas de présumés auteurs des crimes phoniques ont été condamnés de 3 années de prison ferme et de $5,000 américains d'amende. Nous allons suivre cette fois-ci les témoignages de M. Adams Kasinga, directeur fondateur des Conserves Congo. C'est l'ONG qui avait porté plainte contre ces présumés auteurs du trafic d'un bébé bonobo, des crânes et des mains, après des enquêtes menées à partir de Mbandaka jusqu'à Kinshasa.
Ah, c'était deux dossiers différents. Les deux étaient appréhendés à Kinshasa, dans la commune de Kingabwa. Et ils voulaient vendre le bonobo, un bébé bonobo.
Ils étaient venus d'où?
À un agent. L'un venait de l'Équateur et l'autre était un résident. Parce que c'est une chaîne, c'est un réseau. Celui qui attrape l'animal de la brousse, ce n'est pas celui qui le transporte. Celui qui le transporte, ce n'est pas celui qui le vend. Celui qui le vend, ce n'est pas celui qui...
connaît les circuits de la personne intéressée par l'achat de l'animal.
Et on a poursuivi tous les mouvements à partir de Mbandaka jusqu'à Kinshasa. Et on a été mis en contact avec la deuxième personne qui était en fait le vendeur. Et au moment de ce qui était supposé être le moment de la transaction, il a invité la personne pour amener l'animal. Et heureusement, on a mis la main sur les deux.
Et les arrangements se sont passés comment? Il aurait fallu que ça soit contre paiement ou...
Bien sûr, il les vendait à $3,000. Il vendait le bonobo à $3,000. Et ce n'était pas la première fois. Ils ont été arrêtés après 2 ans d'investigation. On a tenté de l'arrêter une fois il y a 2 ans. On a même invité un investigateur international qui était venu du Cameroun. Mais enfin, il a échoué, n'a pas réussi à mettre la main sur lui. Mais on a continué à faire le monitoring et la surveillance à distance. Et nous savons que entre 2016... et 2018, il avait vendu 50 primates. Sûrement, c'était pas sa première fois et on a eu à exhiber toutes ces évidences-là au tribunal. Et c'est ainsi qu'il y a eu la condamnation. Mais l'autre dossier, qui était le deuxième, c'est un jeune homme qui est un tradit praticien dans la commune de Ndjili. et il avait tout un dépôt. C'est-à-dire, quand on est arrivé, il nous a dit lui-même, dans ses propres mots, qu'il y avait 22 crânes de bonobo et il y avait 50 mains de bonobo. Mais malheureusement, quand nous sommes arrivés, il avait déjà vendu le reste. Mais on l'a attrapé en flagrance avec 2 crânes de bonobo et 12 mains de bonobo. Toutes les mains étaient main gauche. C'est-à-dire, ça nous rassure qu'il y a eu au moins 11 espèces massacrées.
Mais ces crânes, ils en font quoi avec les mains des bonobos? Ils en font quoi?
Selon nos investigations, ce sont des, ils sont utilisés pour des rituels spirituels.
Ok.
Il y a des gens qui croient que si ils se lavaient avec le crâne d'un primate, ça prend lieu d'un crâne d'un humain. Alors les résultats pourraient être les mêmes, les résultats pourraient être mieux qu'il ne peut. Et ce sont juste croyances. Ce n'est pas quelque chose qui est prouvé. Mais ce sont des croyances que les gens ont eues au fur et à mesure, mais qu'on peut aussi changer avec le temps.
Et les tradis praticiens vous a révélé où est-ce qu'il s'approvisionnait, les circuits d'approvisionnement de tous ces crânes et des mains de bonobo?
Bien sûr qu'il a eu à donner certaines informations, mais ces informations doivent être vérifiées avant d'être divulguées. Mais à ce qu'on sache, il y avait une bonne partie des têtes qui venaient de la province de Bandundu.
Les notions se rapportant à la réglementation du secteur de l'environnement et conservation de la nature nécessitent une vulgarisation à grande échelle. Au niveau des cours et tribunaux, les plaintes ne sont pas bien rédigées, dans la plupart des cas, des infractions non établies. On note également l'absence des preuves et des délais des procédures largement dépassés. Avec de tels dossiers, les parquets n'ont généralement pas de choix que de les classer sans suite. En outre, plusieurs autres problèmes s'érigent en pesanteur à une application efficace et effective de la loi sur la faune. Maître Guillaume Tangama Bofima, président du conseil d'administration de l'ONG Justice, Vie et Protection de l'Environnement, fait allusion à l'ignorance des lois réglementant le secteur de l'environnement et conservation de la nature en RDC. Les faibles capacités, notamment dans les investigations, de la faible collaboration entre services et institutions qui œuvrent dans la chaîne de l'application de la loi, du trafic d'influence et de la corruption, sont les quelques mots enregistrés dans le secteur.
Le domaine de l'environnement ou les droits de l'environnement, c'est un droit du troisième millénaire. Mais à voir comment les choses se passent ici, particulièrement en RDC, je crois qu'il y a une négligence. Ici, pas une négligence, mais ce qui arrive, c'est la léthargie des autorités. Donc nous voyons que c'est un domaine qui n'est même pas respecté.
Et parlez des faits, maître. Quand vous dites qu'il y a une négligence, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain?
Ça dit que l'organisme comme l'ICSN, par rapport à la nouvelle loi sur l'environnement, devrait d'abord commencer par vulgariser cette loi, pour que les gens sachent maintenant que il y a certaines espèces endémiques qui sont totalement protégées, comme les bonobos, comme les léopards, comme les éléphants, et il n'y a pas seulement ces espèces, il y a aussi des espèces de faune et flore. Donc, ce que nous vivons actuellement, nous trouvons que les gens, surtout les riverains, utilisent d'une manière, très intéressée ces espèces, au point même de détruire ces écosystèmes. Donc nous trouvons que l'État congolais devrait quand même s'appréhender les processus pour vulgariser et dissuader au besoin les gens qui s'exercent dans ce genre d'histoire. Parce que, aujourd'hui, vous allez dire que on trouve quelqu'un avec les bonobos. Pour lui, il ne sait pas que cette espèce-là est protégée et que le simple fait de la détenir, ça constitue une infraction. Donc l'État devait faire quand même un effort dans ce sens-là.
Mais maître, on sait qu'il y a également de personnes qui sont parfois, qui font l'objet des poursuites judiciaires, hein, dans le cadre de la lutte contre la criminalité faunique, et puis il y a même un procès pour lequel vous êtes partie prenante. Parlez-nous un peu de ce procès, de quoi il s'agit.
C'est-à-dire que dire qu'il y a des procès, je crois que le procès qui vient de passer, c'est une première.
Oui.
C'est une première parce que on avait interpellé nos clients par rapport à la simple détention de ces spécimens. Il y avait deux cas, ils étaient à trois au niveau de la prison qui ont été interpellés. Les deux premiers ont agi en participation criminelle parce que la, si vous faites les, je ne fais pas la publicité, l'ONG conserve a essayé un peu d'initier des actions pour démanteler ces réseaux. Et l'ONG est tombée sur deux personnes qui détenaient, c'est un cas de flagrant délit, détenaient un petit des bonobos. Alors, ils ont été déférés au parquet. De même, en ce qui concerne mon client, lui également, on l'a retrouvé en train de vendre les spécimens des bonobos, ainsi que il y a des mots techniques, hein, certains peaux de proches des léopards. Et ces conditions, ils ont été interprétées par la police.
Donc ce sont là des faits qui sont reprochés à...
C'est le simple fait de détenir ces espèces-là, morts ou vivants. Alors ils ont été déférés au parquet, le ministère public a fait son travail, il a saisi la juridiction du jugement, il y a eu procès, il y a eu plusieurs remises, et finalement, nos clients ont été condamnés. Ils ont été condamnés à 5 mois, effectivement, parce que tenant compte de leur personnalité, ils étaient des délinquants primaires, raison pour laquelle le juge a essayé un peu de faire application des circonstances atténuantes. Ils ont été condamnés à 5 mois.
Pour améliorer les conditions de poursuite judiciaire contre les infractions phoniques en RDC, il faut renforcer la capacité des acteurs œuvrant dans le secteur de la lutte contre la criminalité phonique. Un travail de vulgarisation des lois et conventions nationales et internationales qui régissent le secteur de l'environnement et conservation de la nature doit être fait sur terrain, conclut le professeur Augustin Goumbi Amouri. Nous rappelons qu'il est le directeur coordonnateur de la convention au CITES à l'ICCN.
Nos aéroports et nos postes de frontières ne doivent pas être des passoires. Alors, à ce niveau-là, nous devons tout simplement, le gouvernement doit mettre en œuvre les engagements internationaux souscrits au terme de cette convention. L'un de ces engagements demande à ce que la RDC puisse finaliser le décret portant réglementation du commerce international. Nous devons obtenir ce décret et faire apport au niveau de la convention, c'est-à-dire au niveau du secrétariat de la convention. Donc la RDC doit améliorer, le gouvernement doit œuvrer à améliorer la gouvernance de cette convention-là, en commençant par les décrets, et aussi ces décrets prévoient des mécanismes. L'un des mécanismes, c'est la task force contre les commerces illégaux des espèces sauvages. La task force signifie quoi? C'est la conjugaison des efforts entre les services de l'État, l'organe de gestion en tête, avec tous les services, la douane, l'Office congolais de contrôle, les services de renseignement, la cellule nationale de renseignement financier. Il y a 7 services de l'État qui doivent travailler en synergie pour lutter contre les commerces des espèces. Alors, vous voyez, ça demande que ces décrets soient signés par le gouvernement. Donc c'est une attente, non pas seulement nationale, mais c'est une attente internationale. Donc c'est simplement que nous demandons que le gouvernement puisse aligner parmi ses premières priorités les textes sur la CITES. Il n'y a pas que les décrets sur la réglementation du commerce, il y a aussi les décrets définissant la liste des espèces sauvages totalement protégés et partiellement protégés. Il y a aussi la faune sauvage totalement et partiellement protégée. Donc ce sont les mesures d'application qui doivent accompagner ces décrets-là. Nous avons les mesures qui sont anciennes. Je vais vous donner un exemple. Nous avons, par exemple, les pangolins. Et si vous regardez le mesure d'application que nous avons actuellement, le pangolin ne sont pas protégés, à l'exception du pangolin géant. Alors que à la COP 16 de la Convention CITES, non à la COP 17, qui s'est tenue à Johannesburg en 2016, toutes les espèces de pangolins du monde sont totalement protégées. Donc il faut que notre législation soit revue pour que les pangolins soient aussi totalement protégés. Donc il y a une mise à jour importante. Les projets sont là, et transmis déjà au niveau du secrétariat général du gouvernement, et pour que le gouvernement s'y penche le plus vite possible.
C'est par ces quelques recommandations du professeur Augustin Goumbi Amouri, coordonnateur de la convention CITES à l'ICCN, que nous clôturons ce numéro des codes de développement consacré à la problématique de la lutte contre la criminalité phonique en RDC. Ce magazine vous a été présenté par Tatima Poukou avec la collaboration de Marcel Ngombo. Jean-Marc Matoua qui a coordonné et supervisé cette émission, Polydor Basunga s'est occupé de la prise des sons. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Éco du développement. Très bonnes conditions d'écoute des programmes sur Radio Capi.